Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Dominique Bénard. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
Par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Et par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
Alors la sélection de ce jour va nous emmener aux quatre coins du monde avec un film chinois, un séjour dans les monts Fushun, d'un jeune réalisateur, Gu Xiaogang, un film roumain, Les Siffleurs, de Corneliu Porumboiu, présenté en compétition à Cannes, et enfin un film américain, Scandale, de Jay Roach. Ils appartiennent bien sûr à des genres différents, ils nous plongent dans un univers très varié, mais ils ont en commun de nous parler de la société dans laquelle vit chacun de ces réalisateurs. Alors nous allons parcourir le monde d'est en ouest et commencer par séjour dans les monts Fushun. Le réalisateur Gu Xiaogang est né en 1988 à Hangzhou et c'est son premier long métrage qui a été sélectionné par la semaine de la critique à Cannes l'année dernière. Son film est en partie autobiographique. Ses parents avaient, bien comme le frère aîné dans le film, le premier frère, comme on dit en Chine, un restaurant à Hangzhou. Mais il a élargi cette saga familiale de quatre frères pour en faire une peinture de la société chinoise actuelle et de l'évolution de sa ville natale. Depuis l'anniversaire de la grand-mère, par laquelle commence le film, dans le restaurant familial, jusqu'à sa mort, les récits des différents membres de la famille s'entrecroisent un peu comme dans un roman balzacien. Le titre fait référence par ailleurs à un peintre célèbre du XIVe siècle, Huang Gongwang, dont le réalisateur s'est inspiré, on en reparlera, pour certains de ses plans. Alors Jean, as-tu été sensible à ce récit familial assez dépaysant pour nous ?
Oui, bien sûr, et ce film est étonnant et fascinant, qui nous plonge dans un univers inconnu, celui des Chinois de la petite classe moyenne, vivant dans la région de Hangzhou, au sud de Shanghai. C'est une population qui n'arrive pas à bien se positionner entre le maintien des traditions et une vie moderne caractérisée par le pouvoir absolu de l'argent.
Donc tradition et contradiction de la fameuse économie socialiste de marché.
Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça. Et d'ailleurs, dès les premières scènes, nous sommes confrontés à ce problème. La célébration des 70 ans de la mère réunit autour d'elle ses quatre fils et toute sa famille. Amour et soumission, rites païens, repas traditionnels, tout concourt à la survivance forte de la tradition, jusqu'au moment où la vieille dame a une attaque. On voit alors un autre visage de la société, ambulance, hôpital et surtout discussion sur le prix à payer pour les soins. Le film raconte ensuite la vie de chacun des personnages qui s'écoule au rythme des saisons et du fleuve paisible dominé par les monts Fushun. Il y a les quatre frères, l'aîné, qui avec son épouse est restaurateur, puis le ménage de pêcheur, ensuite le troisième qui est un joueur invétéré et qui accumule les dettes, et enfin le dernier immature et qui deviendra truand. La nature à chaque saison est très présente, magnifiquement filmée par le réalisateur, qui, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, s'est inspiré d'un rouleau du XIVe siècle, dont le titre du film emprunte le nom. Nous retrouvons dans plusieurs scènes la beauté et la grâce de cette peinture, basée sur le contraste entre le calme de la rivière et l'exubérance des forêts sur les montagnes.
Et alors, on retrouve un peu cette grâce dans la façon de filmer du réalisateur, non ?
Oui, bien sûr, car la façon de filmer est inspirée par la nature et le lent écoulement du fleuve. C'est pas l'important ça. Les mouvements de caméra se font tout en douceur, champ contre champ, avec de longs plans séquences, comme celui où un jeune nageur remonte le courant le long de la berge d'un fleuve, avant de retrouver sa fiancée et de marcher avec elle jusqu'à l'embarcadère où attend leur bateau. À côté de cette scène magistrale d'une simplicité époustouflante, le réalisateur excelle aussi en filmant un mariage sous un camphrier tricentenaire, des scènes de pêche dans la rivière ou la destruction d'anciens immeubles pour faire de la place à de nouvelles constructions destinées à accueillir le boom géographique dans la région. Ce film est censé être le premier volet d'une trilogie de la peinture chinoise en rouleau, mille milles le long de la rivière Yangtze. Et alors, nous attendons la suite avec beaucoup d'impatience.
Alors Dominique, tu as aimé aussi ce film ?
Oh oui, beaucoup, beaucoup. On est émerveillé par la beauté des photographies, des cadrages, par la nature aux quatre saisons. Et par les contrastes entre les vies de ces quatre personnes, d'une part, et puis, je dirais, le contraste entre cette nature absolument splendide. On a un grand escalier qui monte à travers les arbres et qui est bordé de petits temples absolument superbes. Et les grands immeubles qu'ils sont en train de construire, je dirais, des choses éphémères, là, et peut-être pas aussi belles. Mais c'est fait sans jugement, c'est vraiment, tout est fluide, on passe de l'un à l'autre. C'est vraiment un très, très beau film.
Fluide comme le fleuve et la peinture chinoise. Jean-Michel ?
Oui, mais moi, je vais ajouter la même chose.
Nous sommes consensuels sur ce film.
Avec mes mots à ce concert de louanges. C'est un premier film admirable qui laisse présager, on l'a dit de tous côtés, d'un futur grand cinéaste, une histoire universelle et transgénérationnelle dans ce paysage changeant de la Chine. Poétique aussi, ça a été souligné par Jean, avec ce magnifique rouleau de peinture qui inspire les vues des paysages. Tous les personnages, c'est frappant, sont discrètement mais puissamment dessinés avec un pinceau qui me paraît trempé dans l'amour et dans la nuance. Ils évoquent ce que Renoir disait de ceux de la règle du jeu, tous ont leur raison dans leur comportement. La finesse de la mise en scène, l'utilisation de toutes les variétés de plans pour rendre compte de la vie qui s'écoule, la fluidité de la caméra qui enchaîne avec bonheur ces panoramiques et ces travelling lents et fascinants. On a parlé de celui des amoureux le long de la rivière. Ces paysages qui sont offerts avec simplicité, tout cela fait que 2h30 passent comme un rêve.
Ah oui, ça passe bien.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que tu as raison de souligner que le film est intéressant à plusieurs niveaux. Ces personnages sont vivent, quoi. Ils ont une vraie profondeur.
Oui, une vraie profondeur.
Même, par exemple, ça doit être le troisième frère qui est un peu truand, qui rembourse pas ses dettes, mais par ailleurs, il s'occupe de sa mère, il s'occupe de son fils trisomique, etc. Donc, ce sont effectivement des personnages qui sont très très loin d'être caricaturaux. Et puis pour nous, il y a aussi cette vision de la société chinoise qui est toujours quand même stupéfiante. C'est-à-dire qu'après quand même des décennies de révolution culturelle, on trouve des gens finalement pour lesquels
la Chine éternelle.
Oui, l'argent d'une part.
L'argent est trop important.
Très important, mais aussi effectivement ces traditions familiales, ces rites familiaux qu'on aurait pensé complètement, abandonnés après tout ce qu'ils ont subi. Pas du tout, au contraire, ça revient.
C'est bien, l'idéologie finalement s'efface. S'efface avec la tradition, c'est assez curieux.
Qui n'en reste presque rien, quoi.
Oui.
Et alors, à côté de ça, il y a effectivement tout ce côté esthétique. Alors là, pour le coup, qui reprend effectivement tous ces travelling sur la, en particulier celui que tu citais là sur cette descente du fleuve. Oui. Là, on retrouve vraiment toutes les caractéristiques de la peinture chinoise parce que on déroule au fond le rouleau très lentement.
C'est l'impression qu'on a. Oui.
Les petits personnages dans la forêt sont comme dans une peinture chinoise, c'est-à-dire très petits, de même que les bâtiments. Donc là, il y a effectivement une opposition que tu soulignais entre cet aspect de la Chine et puis par ailleurs les constructions qui n'arrêtent pas de pousser en détruisant les anciennes.
Absolument.
Oui, il n'y en a pas ces excès de gros plans, de plans rapprochés qu'on a dans un certain nombre de films et qui cassent toute entrée du spectateur
Il filme avec une douceur étonnante.
Là encore, la peinture chinoise ne connaît pas le gros plan. Et il a dit lui-même, d'ailleurs, je crois, dans une interview, qu'il s'était refusé à tout champ contre champ, parce que c'est contraire, là aussi, finalement, à la façon dont on découvre les personnages dans une peinture chinoise.
Et puis, il décrit, comme tu disais, de façon pas du tout caricaturale, parce que ces personnes qui parlent d'argent du matin au soir, qui s'en empruntent, qui se le rendent, ou pas d'ailleurs. Bon, quand ils ont des rapports absolument touchants avec ce petit garçon trisomique, ouais. On le voit descendre les escaliers entouré par son oncle et sa tante, on le voit, il est vraiment très intégré dans la famille, et ça c'est très beau.
Il y a beaucoup d'humanité.
Beaucoup d'humanité.
Et beaucoup d'humanité, on voit aussi la grand-mère prendre la défense de sa petite-fille, finalement, contre la mère. Enfin, il y a plein de petites touches comme ça qui sont intéressantes. Bon, vraiment un beau film.
Un film qui rend heureux.
Oui, un film qui rend heureux et qui rend heureux d'aller au cinéma aussi, parce que c'est en tant qu'objet d'art, enfin en tant qu'objet cinématographique, c'est un film vraiment intéressant.
En ce moment où on parle beaucoup de la Chine, c'est quand même intéressant de voir ça.
Surtout que c'est la Chine assez profonde, quoi.
Absolument.
Même si c'est. Alors, nous allons passer à un film assez différent, le film de Corneliu Porumboiu, Les Siffleurs. Alors que ce n'est pas un premier film. Corneliu Porumboiu est né en 1975 en Roumanie. Il est l'auteur de courts-métrages, de documentaires et de 5 longs-métrages qui sont tous sortis en France. Donc c'est un auteur que nous connaissons, si je puis dire. Son premier 12h08 à l'est de Bucarest, en fait, avait reçu la caméra d'or, celle qui récompense un premier film, en 2006 à Cannes. C'est sans doute pour ça aussi que la France le connaît assez bien. Et comme beaucoup de ses compatriotes, il pratique un cinéma corrosif, dénonçant les vices, les turpitudes de la société roumaine actuelle. Alors, Les Siffleurs empruntent au genre du film noir et racontent les mésaventures d'un inspecteur de police corrompu par des trafiquants de drogue et soupçonné par ses supérieurs et donc surveillé par ses collègues. Il est embarqué par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, dans les Canaries, où il doit apprendre la langue sifflée de l'île pour contacter un mafieux incarcéré et l'aider à sortir de prison, dans l'espoir, bien sûr, de récupérer les millions cachés sans qu'on sache bien où vont atterrir ces millions. Alors, Dominique, as-tu pu suivre le fil de cette histoire où tout le monde corrompt, suspecte et trahit à peu près tout le monde?
Oh bah oui, Jacques, rassure-toi. Même si dans ce polar rythmé et déjanté, Corneliu Porumboiu ne ménage pas le spectateur au travers des fausses pistes, des manipulations, des rebondissements, l'histoire est assez claire. Chacun sert ses intérêts et eux seuls à n'importe quel prix. Mensonge, corruption ou meurtre, et le magot sert de relais. Mais les questions que nous pose le cinéaste sur notre monde et son style réjouissant, inventif et pétri de références cinématographiques et musicales me paraissent plus importantes que ses péripéties. Je voudrais saluer la sélection de ce film à Cannes, car le cinéaste et ses équipes se donnent beaucoup de mal pour tourner des films roumains en Roumanie, et ce n'est pas facile.
Mais c'est quand même une vision assez sombre de la Roumanie que le film nous donne.
Ah oui, il nous décrit un monde extrêmement noir, dans lequel la communication, la corruption, la surveillance tuent la confiance, et où tous jouent des rôles. Comment peut-on assimiler ces nouveaux codes et les tourner à son avantage? Et comment manipuler les manipulateurs? Ces questions sont aussi les nôtres, celles de nos sociétés de smartphones et de caméras de surveillance. Bien sûr, parler le silbo, ce langage sifflé, est un moyen de communiquer sans être compris par les indiscrets, mais on peut aussi se jouer des surveillants. Ainsi, Gilda, magnifique mafieuse locale, et Christy, un policier désabusé et corrompu, simulent une torride scène de sexe entre une escorte et son client, destiné aux caméras de surveillance, alors qu'en réalité, complices, ils mettent au point leur prochain mauvais coup.
Et effectivement, tout cela devant les caméras de surveillance. Mais bon, ça, effectivement, il y a un message sur la corruption et sur la surveillance qui est très fort et qui peut nous toucher assez largement, plus que uniquement la Roumanie. Mais le film est aussi intéressant par sa forme.
Ah bah oui, moi j'ai d'abord été frappée par les sons. Pas seulement le langage sifflé, mais les sons, la musique, qui sont d'une grande variété et qui sont nécessaires et très intégrés à l'histoire. Un critique parle même, et j'ai trouvé ça assez juste, du premier ciné-opéra sifflé. Par exemple, dès le début, la chanson d'Iggy Pop, A Passenger, donne le rythme et le ton du film en accompagnant l'arrivée du policier sur la magnifique île de Gomera. Les chants d'oiseaux tiennent compagnie aux siffleurs. Et la barcarolle d'Offenbach est là pour faire fuir les rares clients du motel Opéra, qui sert en réalité de couverture aux trafics locaux. Et puis, Corneliu Parmboiu est un amoureux du cinéma. Hein. Il en joue de toutes les façons et toujours en situation par rapport à son histoire. Extrait de films comme La prisonnière du désert de John Ford ou Les Indiens sifflent. Motel tout droit sorti de Psychose d'Hitchcock, douche comprise. Rendez-vous à la Cinémathèque. Récupération des millions à Bucarest dans un studio de cinéma désaffecté et beaucoup d'autres références. Hein. Alors, on va laisser aux spectateurs le grand plaisir de les trouver et de déguster ce film.
Alors, Jean-Michel, est-ce que tu as dégusté ces...
Pas du tout.
Je serai moins consensuel sur ce film.
Ah, pas du tout. J'ai détesté ce film.
J'aime bien Parmboiu, pourtant.
Oui, Parmboiu, eh bien, c'est un cinéaste dont certains des films précédents avaient été très appréciés, et de moi en particulier. Mais celui-ci m'a beaucoup ennuyé, malgré les concerts de louanges de la critique et de beaucoup de spectateurs, effectivement. C'est un film dans lequel la forme prédomine tellement largement sur le fond. Pourquoi ? Parce que moi, je suis pas du tout entré dans le jeu de l'auteur, dans cette volontairement et gratuitement obscure et incompréhensible histoire où tous les personnages sont, à l'exception de la très belle Gilda, je vous l'accorde, inintéressants et conventionnels.
Gilda est un beau prénom.
Ah oui, magnifique. Et encore une référence.
Oui.
Je trouve aussi qu'on nous bassine un peu avec la langue sifflée, qui est sans aucun mystère ni sans aucun attrait et dont l'apprentissage occupe dans ce film de trop longues minutes après avoir inspiré le plus poétique Cybèle turc.
C'est vrai, absolument.
Enfin, et pour répondre un petit peu à Dominique, le dévoiement, à mon avis, le dévoiement des six musicales opératiques, La berceuse d'Offenbach, La Norma de Bellini, m'a agacé au plus haut point. J'appelle ça un dévoiement musical.
C'est un peu facile. Alors, ouais, genre.
Moi, je suis en principe pas un grand fan des films roumains en général, parce que je trouve qu'on en fait un peu trop en France sur les films roumains pour promouvoir ce pauvre petit pays sorti des griffes du communisme, et on a souvent droit à des mélos racoleurs. Fermons la parenthèse. Mais par contre, ici, non, je trouve qu'on a un vrai grand film. Plein d'énergie, plein d'idées, parfois plein d'humour, mais on rigole même de temps en temps. Même si je dois dire que, comme Jean-Michel, j'ai pas toujours tout compris. Loin de là.
Ça, c'est un grand classique du film noir. C'est pas très bien souffle.
Oui, c'est vrai. C'est un grand classique, oui. Mais c'est, sinon, non, moi personnellement, je ne me suis pas du tout ennuyé, en tous les cas.
Oui, moi, je serais un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est un film, effectivement, où il y avait eu de très bonnes critiques, parfois. Je dirais pas que c'est le chef-d'œuvre du siècle. Il y a des choses amusantes. Mais là où je rejoins un peu Jean-Michel, c'est vrai que la forme va sans doute un peu au-delà du fond, quoi. Il y a une volonté de toucher le spectateur par la forme, ce qui est pas forcément mal, hein. On s'amuse aussi à la forme.
C'est-à-dire que le fond, c'est un film noir.
Oui.
C'est assez conventionnel. Hein. On a les mafieux d'un côté, ils font du trafic de drogue, ils ont besoin de blanchir l'argent.
Oui.
Bon, alors Zolt, en Roumanie, avec son usine de matelas, il va leur blanchir l'argent, mais ils ont besoin de complicité, ils corrompent le policier. Enfin, je dirais,
oui, mais
tout
ça vous tient pas en haleine comme un film
classique
noir.
Il y a tous les ingrédients du film classique.
Tout y est.
Par contre, ce qui est peut-être plus original et plus intéressant, c'est ce côté, justement, surveillance.
Caméra de surveillance, moi j'ai trouvé que c'était... La façon dont il se joue tout le temps de la surveillance, c'est ça qui est vraiment amusant. Hein.
La caméra de surveillance est un outil évidemment plus visible que la surveillance de nos mails et de nos internets, mais c'est vrai qu'effectivement, nous allons dans une société plus surveillée, et ça c'est est assez intéressant. Et la façon dont il contourne, justement cette censurerie. Ça, je pense que c'est à mettre au crédit du film d'avoir effectivement traité ce point-là.
Dans une même scène, alors il filme la scène. Bon, il la filme derrière de la caméra de surveillance. Il la filme de plusieurs points de vue. Et je dirais ça intéresse. Moi, ça m'intéresse.
Ça pourrait être un beau film américain quand même. C'est fait par Aruma, mais ça pourrait être fait par un bon film noir.
Je suis pas complètement. Les Américains font mieux.
Hein. Je suis pas complètement d'accord. Je pense que l'aspect un peu corrosif, humour, est plus spécifiquement roumain qu'américain, que les Américains sont plus sensibles à la construction du film. Là, je pense qu'il y a la construction
et au rythme.
Ouais. Donc, on n'est pas dans un rythme américain. Non. On est dans un rythme plus décontracté, je dirais.
Ben, on s'amuse quand même de temps en temps.
Mais on s'amuse, il y a des
de
choses.
De temps en temps, on s'amuse quand même.
Là, une des scènes finales qui est décisive, quand ils prennent la bande, là, et qu'ils veulent récupérer le magot en les tuant ou en les arrêtant, au mieux. Là, on est quand même dans une reconstitution de western, y compris d'ailleurs dans un décor, effectivement, de cinéma, qui est assez drôle, quoi.
Mais par exemple, la fausse scène d'amour, c'est pas mal quand même aussi.
La fausse scène d'amour est pas mal aussi. Non, il y a un certain nombre de choses.
Tu veux dire la scène de sexe?
Oui, oui, ils font tout sexe.
C'est pas tout à fait pareil.
C'est pas tout à fait pareil.
Oui, mais, enfin, d'amour, je dis amour, mais c'est sexe.
J'ai d'ailleurs dit une scène de sexe.
Mais, non, mais c'est vrai. Moi, je dirais que c'est un film, c'est souvent comme ça, où on s'amuse bien à plein de scènes, et où la reconstitution complète du film ne donne pas forcément un chef-d'œuvre, mais on s'est quand même amusé, sur un certain nombre de plans, quoi.
Vous l'aurez oublié dans quelques jours.
Oui, peut-être. Je trouvais qu'il y avait un très bon casting.
Oui, le casting est bon, sympathique. Bon. Oui.
On risque de l'oublier rapidement, c'est vrai.
Bon, eh bien, écoutez, nous allons passer au troisième film, qui est Scandale de Jay Roach. Alors, Jay Roach est un réalisateur américain.
Après, une pause musicale.
Qui s'est fait connaître par la série des Austin Powers, parodie déjantée et pas toujours très fine de James Bond. Plus récemment, il a réalisé un film intéressant et plus politique, Dalton Trumbo, du nom d'un scénariste américain. Pardon ?
Très beau film.
Très beau film, oui. Accusé de communisme par la commission dirigée par le fameux sénateur McCarthy. Alors, Scandale, le titre original est d'ailleurs Bombshell, raconte lui aussi une histoire réelle, mais beaucoup plus récente, puisque c'est celle de Roger Ailes, le tout-puissant patron de la chaîne de télévision Fox News, qui, en 2016, est accusé de harcèlement sexuel et devra démissionner devant les témoignages de nombreuses victimes et la tornade médiatique qui s'en est suivie. Alors, le film construit autour de trois présentatrices de Fox News, celle qui a dénoncé Ailes, Gretchen Carlson, jouée par Nicole Kidman, une présentatrice vedette, Megyn Kelly, jouée par Charlize Theron, et une jeune ambitieuse, jouée par Margot Robbie. Les deux premières sont des personnages réels, hein, de l'histoire, et la troisième est une invention du film. Jean-Michel, alors qu'as-tu pensé de ce film qui s'inscrit, peut-être avant qu'on en parle, dans le mouvement MeToo ?
Oui, oui, j'en ai pensé du bien. Ce film est construit comme un thriller médiatique, social et politique. En effet, Jay Roach et son scénariste Charles Randolph racontent de façon particulièrement percutante et efficace le début de la révolte des femmes. Il faut comprendre d'où on part, il y a moins de 4 ans. En 2016, Roger Ailes est le tout-puissant patron de Fox News, effectivement, cette chaîne d'information continue ultra-conservatrice lancée en octobre 1996, la plus regardée aux États-Unis, et rampe de lancement du candidat populiste Donald Trump. C'est une époque où prévaut le droit de cuissage sur les candidats à la présentation de ces missions. Celles-ci, convoquées dans le bureau du patron, doivent se montrer sexy devant lui et remonter bien haut leur jupe. Le pantalon est interdit. Tandis qu'il les mate de façon lubrique, rétorquant à celles qui s'en offusquent que la télévision est un médium visuel. Dès lors, irrésistiblement attirées par cette prestigieuse chaîne de télévision, les jeunes femmes craquent et le prédateur assure son pouvoir sur elles.
Mais le système s'effondre quand même. Alors comment le film raconte cet effondrement du film, du
Alors,
système ?
Effectivement, à l'été 2016, en pleine campagne présidentielle, une présentatrice vedette de Fox and Friends, Gretchen Carlson, ex-Miss America, voit son contrat non renouvelé. Elle est alors la première femme à oser dénoncer, malgré le chantage, les agissements de Roger Ailes et va intenter des poursuites judiciaires contre lui pour harcèlement sexuel. C'est un véritable séisme. Et Ailes, alternant dénégation et menace, s'appuie sur son réseau d'influence et sa fortune pour contre-attaquer. Heureusement, Gretchen ne va pas rester seule après des semaines d'hésitation à peser le pour et le contre dans un climat oppressant. D'autres présentatrices vont se manifester, dont celui capital d'une personnalité de Fox News, Megyn Kelly, restée célèbre pour avoir interpellé le candidat Trump qui lui reprocha publiquement une agressivité qu'il imputa à ses règles. Ainsi, leurs témoignages successifs vont-ils révéler l'ampleur et l'ancienneté de ces pratiques scandaleuses qu'encourageait la misogynie sans complexe de la chaîne et de son public. Dès lors, lâché par tous ses soutiens, Ailes va s'effondrer.
Alors, évidemment, pour un sujet pareil, l'interprétation de ces acteurs est très importante. Alors, est-elle à la hauteur de ce mécanisme de destruction, finalement, de prédation sexuelle ?
Eh bien, il me semble que oui. Parce qu'elle s'appuie d'un côté sur l'Ailes libidineux à souhait de John Lithgow, qui, abusant de son pouvoir avec cynisme, déploie toutes les facettes de son abjection morale devant nous. De l'autre, sur un très brillant trio d'actrices qui incarne dans ce combat trois figures majeures de Fox News, Nicole Kidman en Gretchen, Charlize Theron en Megyn et Margot Robbie en Kayla, qui est le seul personnage inventé du film, comme tu l'as dit, conçu comme l'image de toutes les jeunes ambitieuses qui vont tomber dans les pièges tendus par Ailes. Si celui-ci semble doté d'un comportement un peu surligné, il reste néanmoins crédible, et celui de ses courageuses proies est beaucoup plus nuancé. Le film aborde aussi, à travers le cas Fox News, la question de la puissance de frappe idéologique que représente une chaîne d'information continue et son pouvoir d'attraction sur des journalistes astreints souvent, malgré eux, au formatage de l'opinion.
Alors, Dominique, qu'as-tu pensé de ce film ?
Oh ben, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un film qui est très, très, très bien fait, remarquablement interprété. Pour moi, c'est un film sur le pouvoir, comment on le garde, à quoi il sert et comment on le perd.
Heureusement qu'il ne sert pas qu'à ça, quand même.
J'ai dit à quoi il sert, je ne sais pas à quoi tu penses. Bien. Et j'ai trouvé... Alors, un truc qui m'a beaucoup intéressée, c'est à quel point les vêtements des femmes sont importants. Et je dirais pas seulement dans ce film, mais dans toute la société. Pouvoir maîtriser la façon dont une femme s'habille, c'est la servir, en fait.
Mm-hmm. La publicité en témoigne. Hein.
Bah, bien sûr.
Absolument. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film captivant sur un sujet d'actualité et très brûlant. Mais j'ai pas compris, j'ai pas saisi toutes les subtilités du film, et je pense qu'il faut être un peu américain pour bien comprendre tous ces rapports entre les personnages, entre les journalistes, entre ces avocats qui apparaissent, on voit juste leur nom en surimpression, c'est assez, parfois difficile, on est parfois difficile à suivre. Et puis en plus, il faut quand même admirer cette société où toutes les femmes sont blondes. Toutes les femmes sont blondes. C'est des poupées Barbie, toutes. Et tous les hommes sont bruns.
Oui, bien sûr.
Assez curieusement. Sauf quand même une exception importante, c'est Donald Trump, qui est blond.
Alors, mais qu'on voit quand même un peu en.
Qu'on voit, mais c'est le seul. C'est d'ailleurs, il y a une photo où on voit Trump tout blond et tous les autres sont bruns. C'est assez curieux, cette histoire de couleur de cheveux. J'ai pas bien compris comment ils font des enfants, d'ailleurs, qui sont blonds pour les filles et bruns pour les garçons.
Mais tu sais, Jean, il n'y a quand même pas qu'à Fox News que Ken et Barbie présentent les journaux. Hein.
Non, c'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'au fond, ces présentatrices qui se rebellent sont les premières à jouer de leur corps à l'antenne.
De leur charme.
De leur charme et sont alors, l'incarnation parfaite de la femme-objet. Donc on touche effectivement à
le
paradoxe complet, car le film lui-même d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le genre de film que seuls les Américains savent faire, d'abord parce que
complètement
c'est le seul cinéma qui est capable de traiter une affaire qui vient de se passer il y a 2 ou 3 ans, où la plupart des protagonistes existent encore. Ça, partout dans le monde, on ne sait pas faire ça. Et puis, ils le font avec un rythme. Là, c'est vrai, quelquefois, on peut perdre un peu le film.
Par la pédale. Oh,
mais c'est un rythme échevelé, avec des plans très, très courts. Oui. Enfin, je pense que c'est pour montrer aussi la tension, le rythme de ces studios.
Un peu trop court, même au début.
Quelquefois, un peu trop court. On s'y perd un peu.
Aussi pour moi.
Mais c'est vrai que cet univers qu'il nous montre, avec toutes ces blondes qui sont pareilles, qui sont aseptisées, etc.
Elles ne sont pas toutes blondes, parce que celles qui vont à l'antenne sont blondes, mais les autres ont le droit de mettre des pantalons, de se coiffer n'importe comment, de s'habiller. La copine de Margot, elle n'est pas blonde,
mais
elle n'est pas habillée en poupée Barbie. Donc il y a deux types de femmes.
Bien sûr.
Les servantes et puis...
Oui, en tout cas, oui.
Celles qui vont à l'écran.
Oui, les servantes ou les vestales, je ne sais pas.
Mais c'est la perversion que dénonce, enfin qu'annonce Hale, c'est-à-dire que la télévision est un média visuel. Donc il faut tout sacrifier à cette impression-là pour attirer l'attention du spectateur et faire de l'audimat.
Et ce qui est bien montré dans le film aussi, tu l'as abordé, c'est la difficulté finalement de lever cette chape de silence. Là, au départ, celle qui se rebelle, Gretchen, elle a bien du mal à trouver d'autres témoignages.
Des partenaires, oui.
Hein, c'est pas si évident de rompre. On joue sa carrière au fond. Hein.
Puis c'est pas évident parce qu'elle a accepté un certain nombre de choses.
En plus,
c'est pas du tout évident après de dire j'ai fait ça et. Ouais. C'était pas si bien que ça.
C'est curieux parce que ce metteur en scène qui avait fait Donald Trumbo juste avant, c'est un peu le même système. Trumbo, enfin, les 10 d'Hollywood n'arrivent pas à trouver des gens qui marchent avec eux.
C'est le même problème de terreur.
C'est la société américaine quand même qui est comme ça.
C'est vrai, mais ça se passerait dans une chaîne de télévision française ou dans une entreprise française, on aurait le même problème. C'est difficile de sortir au départ. Alors quand le vent commence à tourner,
le début est très compliqué, oui.
Un film intéressant. Alors, nous allons passer à nos coups de cœur et commencer par un film plus léger, beaucoup moins lourd, Le Photographe de Ritz Batra. Jean.
Ah, Le Photographe, c'est un film indien réalisé par Ritesh Batra qui avait eu, rappelez-vous, un grand succès en 2013 avec The Lunchbox. Il reprend ici ces mêmes thèmes, à savoir la vie des Indiens des classes inférieures et moyennes. Le personnage principal, Rafi, est photographe de rue et opère près de la célèbre porte de l'Inde à Mumbai, c'est ex-Bombay. Il fait la rencontre improbable de Miloni, une jeune fille qui étudie brillamment pour devenir expert comptable. Quand la grand-mère du garçon débarque en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi. D'une façon particulièrement subtile et délicate, le réalisateur va analyser les rapports entre les deux jeunes gens qui sont très vite attirés l'un vers l'autre, mais que les contraintes de la vie indienne empêchent de dévoiler leur amour, puisqu'ils sont de deux niveaux sociaux différents. Le prolétariat issu de la paysannerie pour le garçon, la petite bourgeoisie urbaine pour la jeune fille. Juste une fois, leurs deux mains se toucheront dans un taxi. Sans insister et surtout sans aucun misérabilisme, le réalisateur nous conduit dans les rues bruyantes de la ville, nous fait partager le taudis où vit Rafi et 4 de ses amis, et où vivra aussi sa grand-mère, le tout dans une amitié et une joie de vie étonnante. Miloni, quant à elle, vit chez ses parents, de braves gens qu'il aime bien, mais à qui ne viendrait pas à l'idée de lui demander son avis pour son futur époux. La seule personne à qui elle se confie, cette pauvre Miloni, c'est la bonne de la famille, qui chaque soir, pour dormir, étend sa couverture entre 2 rangées de tiroirs. Bien loin des comédies chantées de Bollywood, Ritesh Batra nous montre la réalité de la vie jusqu'aux rats qui courent dans les salles de cinéma. Sa caméra reflète sa sensibilité et elle effleure toujours ses personnages sans jamais les brusquer, en multipliant les non-dits pour bien montrer le déchirement des deux jeunes gens partagés entre leurs sentiments et le poids des traditions. Pudeur et retenue, c'est fait vraiment la force de ce film.
Voilà, ben, ça nous donne envie d'aller le voir. Dominique, tu nous parles de L'Adieu, un autre film chinois.
Oui, alors mon coup de cœur, c'est L'Adieu, qui est le deuxième film de Lulu Wang, une cinéaste sino-américaine de 36 ans, inspirée d'un mensonge vrai qu'elle a elle-même vécu. Billy est une jeune artiste new-yorkaise, née en Chine et arrivée aux USA à 6 ans. Elle est très proche de sa grand-mère Nene, qui l'a en partie élevée. Nene vit à Changchun avec sa sœur et sa nièce, ses deux fils ayant fait leur vie aux USA et au Japon. Nene ne sait pas qu'elle est atteinte d'un cancer, car la tradition chinoise est de ne rien dire à un grand malade. Toute la famille organise à Changchun le mariage de son petit-fils japonais, prétexte pour entourer Nene avant sa mort. Nous partageons la joie de Nene à mener tout son petit monde à la baguette et les états d'âme de Billy, déchirés entre transparence américaine, il faut tout dire, et le non-dit chinois. Billy est perdu entre la Chine et l'Amérique. Où doit-elle vivre ? J'ai beaucoup aimé ce film et les thèmes profonds qu'il traite. Notre attitude face à la mort, les déchirures que crée l'exil dans les familles et les renoncements qu'il implique, et les rapports entre générations. J'ai été très touchée aussi par l'ambiance du film, entre mélodrame et comédie, comme dans notre vie à tous, à la fois joyeuse, c'est un mariage, et très mélancolique, nous fréquentons hôpitaux et cimetières. Enfin, les deux interprètes de Nene et Billy sont remarquables, et Awkwafina a d'ailleurs eu le Golden Globe de la meilleure actrice pour ce film.
Merci Dominique. Tu l'avais vu, je crois.
Oui, oui, j'ai vu ce film et j'ai beaucoup aimé parce que, il vient un peu en complément du film dont on a parlé tout à l'heure, hein, le Séjour sur les monts Fuchun. Et j'ai remarqué surtout un dialogue. Faut-il dire la vérité à un malade en phase terminale ? Et oui, disent les Américains, centrés sur l'individu. Non, disent les Chinois, centrés sur la famille. Parce que, dit-il, c'est à la famille de porter la douleur de la prochaine mort pour soulager le malade.
Ah, ça, j'ai trouvé formidable.
Cette idée absolument
exceptionnelle. Ce que j'ai trouvé magnifique. Très intéressant dans ce film, c'est effectivement qu'il y a cette relation avec les Chinois immigrés, quoi, donc avec la diaspora, et donc avec des modes de pensée différents, et c'est le choc de ces deux cultures. Je trouvais que ça intéressant parce qu'au fond c'est assez universel. Donc un film chinois là aussi intéressant. Jean-Michel, tu veux nous parler de À couteau tiré?
Oui, c'est très différent. On sort des films intimistes. À couteau tiré est un film de Ryan Johnson, qui est le scénariste et réalisateur américain dont le premier long métrage, Brick, a obtenu le prix spécial du jury à Sundance. Et maintenant, 2 ans après le dernier Jedi, 8e épisode de Star Wars, il nous propose un très réjouissant film à énigmes, à la manière et dans le climat d'Agatha Christie, qui, en dépit de quelques lenteurs dans l'intrigue, n'ont pas empêché d'obtenir le prix du meilleur scénario original aux Oscars 2020, aux côtés de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, et de Bong Joon-ho, Parasite.
Pas mal.
L'histoire est celle d'un célèbre auteur de polar, Harlan Trombe, qui est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. Et le détective Benoît Blanc, à l'esprit affûté et la mine débonnaire, est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Entre la famille d'Arlan qui s'entre-déchire dans la perspective de l'héritage et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Avec une brillante distribution et une mise en scène inégale mais souvent inventive dans la deuxième partie, ce film élégant et décalé laisse en tête le parfum d'un intelligent divertissement.
Eh ben c'est très bien. Wow. Il en faut de temps en temps, hein, des bons films de genre. Eh ben je choisis comme coup de cœur quelque chose qui n'est pas non plus très intimiste, puisque c'est 1917, les films de guerre donc de Sam Mendes. Alors Sam Mendes est un réalisateur britannique, auteur d'American Beauty et North Rebel. Il a aussi récemment mis en scène les deux derniers James Bond, hein, Skyfall et Spectre. C'est dire bon, qu'il sait faire a priori un film d'action à grand spectacle, et on a tenté donc de voir ce qu'il allait faire de La Grande Guerre. Alors le résultat est intéressant, même si on peut faire quelques critiques. Sam Mendes prend le parti de faire un film d'action, mettant en valeur des héros, comme on a pu le faire dans des films sur la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple, on a tous en tête, Il faut sauver le soldat Ryan, de Spielberg, mais On en a fait rarement sur la première, qui en général a donné des films beaucoup plus sobres et plus politiques. Alors Mendes rompt aussi avec les codes du pur film d'action, même si certains passages, c'est un peu la faiblesse, rappellent peut-être un peu trop Indiana Jones, mais il rompt les codes en faisant du film un vrai faux plan séquence de 2 heures. Alors c'est un faux plan séquence parce qu'il utilise certains artifices comme les fumées des explosions ou les ombres des tranchées pour cacher des raccords ou même des ellipses temporelles. Mais c'est un vrai plan séquence vu du spectateur en ce sens que nous ne quittons pas des yeux les deux héros au cours de leur dangereux périple. Nous sommes immergés dans l'univers des tranchées et des paysages hallucinants de parbelés, de boues, de trous de bombes dans lesquels flottent des cadavres. Et la mission de ces deux soldats de première classe de l'armée britannique est simple, très simple à énoncer, sinon à réaliser. Il s'agit de joindre le plus vite possible un bataillon qui s'apprête à attaquer pour annuler l'ordre d'attaque, le retrait des Allemands étant un piège. Il en va la vie de 1600 hommes, dont, pour pimenter l'affaire, le propre frère de l'un des deux soldats. Donc on les suit tout au long de leur difficile avancée, le plus souvent dans des tranchées ou dans des paysages dévastés, mais parfois aussi dans des prairies verdoyantes qui n'ont pas encore été touchées par la guerre. Et puis la traversée nocturne d'un village en feu est un peu l'apocalypse finale, l'image dantesque de l'enfer qu'ils vivent. Alors, que dire de ce film ? Le message sur l'horreur de la guerre, bien sûr, n'est pas nouveau, mais la manière de l'exprimer par ce cinéma dans ce film est à mon avis intéressante et relativement originale. Vous l'avez vu, non, Jean-Michel?
Oui, moi j'ai vu.
L'as vu, Jean?
Oui. Ben, j'ai beaucoup aimé, hein, parce que c'est une splendide réalisation, une énorme réalisation avec... Parce que on voit cette guerre tout le temps, c'est bien foutu. J'ai trouvé quand même que ça manquait un peu d'âme, que c'était un peu... c'est du beau boulot, mais... Il me manque quelque chose, il me manque un petit truc qui m'aurait fait vibrer.
Et oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, on est intéressé par la forme, oui. On est intéressé par la façon dont tu es immergé.
Mais il n'y a pas de fond, mais pas vraiment de fond.
Au fond, on ne se passionne pas complètement pour les héros. Dominique,
c'est oui, ce alors moi je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Je dirais que ce qui, moi, personnellement, m'a intéressé, j'ai pas trouvé que c'était un film absolument extraordinaire, hein. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la transformation du héros, entre guillemets, qui au départ fait cette mission parce qu'il était là, alors viens donc toi, mais il n'a pas une motivation particulière. Sa transformation en un gars qui doit y aller et ouais. Qui va surmonter tous les obstacles, et ça non pas par patriotisme ou parce que ses chefs l'ont galvanisé, mais par solidarité avec ses camarades oui. De tranchée. Et ça, j'ai trouvé que c'était...
C'est un oui. ressort dramatique assez classique hein, dans
oui,
les films
oui,
de ce
oui.
genre. Mais c'est vrai que ça fonctionne assez
ça
bien.
Ça fonctionne. Parce que sinon, c'est vrai, l'émotion...
Moi, j'ai trouvé assez intéressante et assez quand même prenante la première et la dernière partie. C'est-à-dire plutôt tout ce qui est dans des tranchées, etc. Oui. J'ai trouvé qu'au milieu, il y avait un petit peu de laisser-aller à du grand spectacle.
Trouver une cascade en Picardie, voilà.
La cascade en Picardie.
Difficile.
Et la descente, c'est là que je faisais allusion à Indiana Jones, parce que la descente de la cascade, oui. Elle est de trop.
Mais bon, une cascade dans ce coin-là, c'est bon, pas évident.
Nous n'avons pas le temps d'en parler, mais éventuellement à signaler dans un tout autre genre, et pour celles et ceux qui ont été biberonnés au livre, l'adaptation donc au cinéma, la dernière adaptation au cinéma des films du Dr March de Greta Gerwig, qui n'est pas inintéressante. Voilà, ben je crois qu'il est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Dominique, Jean-Michel et Jean qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les 4e mardis du mois, de 13h15 à 14h. Et nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 25 février.